Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Le texte de base qu'on a lu, c'est Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume ». Le problème, c'est que Jésus dit, Luc 17, 21, tu peux le mettre s'il te plaît ? Luc 17, 21. Je vais tourner autour de ça, ensuite je vais vous donner ce que je n'ai pas pu donner au premier culte. Luc 17, 21, on y va. 1, 2, 3, lisons. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu. Alors, une autre dimension, un autre texte plutôt dit ceci, on ne dira point il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Alors, c'est difficile parce que Jésus te demande donc de chercher quelque chose qui n'est pas à l'extérieur. Quand il dit chercher premièrement le royaume, il ne demande pas de chercher l'église. Il ne te dit pas cherche le pasteur, il ne te dit pas cherche l'évêque, il ne te dit pas cherche un séminaire prophétique, il ne te dit pas cherche une réunion de miracles. Il te demande de chercher un royaume qui est à l'intérieur de toi. C'est un peu comme lorsque Jésus demande que vous priez. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne parle pas de la chambre physique. Il dit, cette chambre-là, Dieu se trouve. Ton Père. Il ne dit même pas Dieu, il dit, le Père y est. Mais le problème, c'est qu'il vient de me dire que quand je prie, je dois dire notre Père qui est aux cieux. Et quand vous faites cette prière, vous levez la tête. Parce que pour vous, les cieux sont en haut. Mais les cieux où le Père réside, véritablement, ils sont en vous. Donc Dieu te demande de rentrer en toi-même. Et de trouver ton Père à l'intérieur de toi, de trouver le royaume à l'intérieur de toi. Et il dit, le royaume et la justice vont ensemble. Apôtre Paul dit ceci, le royaume ce n'est pas le manger, le vêtir et le boire. Mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Donc chercher le royaume c'est quoi? Le contexte de cette histoire c'est que Jésus s'adresse à des juifs qui sont religieux, instruits dans le judaïsme. Il s'adresse à des gens qui sont en face de lui. Sous oppression romaine. Ça veut dire que dans l'environnement du pays, les Romains dominent. Et Jésus dit à ces gens, ne vous inquiétez pas de votre nourriture. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas des vêtements que vous porterez. Des vêtements que vous allez mettre sur vous. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Et il va loin. Jésus dit, les païens recherchent la nourriture, le vêtement. Et la boisson. Il dit, toi, ne cherche pas ça. Parce que ton Père céleste sait que tu en as besoin. Ah, écoutez-moi. Donc Dieu nous demande de ne pas chercher nos besoins. De ne pas chercher en fonction de nos besoins. Mais de chercher en fonction de son dessein. De son plan. Tes besoins ne doivent pas être ta boussole. Regarde, le courant se coupe. Pas. Il n'y a plus Edan. Pour ceux qui suivent à l'international, c'est notre système d'électricité. Tu n'as plus de courant parce que tu dois te réapprovisionner. Et puis, tu pries et tu entends Dieu qui te dit, « Mon fils, ne cherche pas le courant. Cherche le royaume. » Tu as faim et tu n'as rien à manger au frigidaire. Et tu pries. Et le Père te dit, ma fille, ne cherche pas à manger. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Cherche premièrement le royaume. Ça n'a pas de sens. Parce que dans mon corps, je souffre. Ici, je dois manger. Mais sauf que Dieu te dit, tu ne dois pas vivre en fonction de tes besoins. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'on a du mal à orienter, du moins. On a du mal dans notre nation. Parce que la plupart des gens qui occupent des postes, ils sont à cause du ventre. J'explique. Je vais à l'hôpital et je rencontre quelqu'un qui est à la réception. C'est une réceptionniste. Je l'aborde, je dis bonjour, j'aimerais avoir un rendez-vous avec le docteur. Elle ne lève même pas la tête, elle est sur son téléphone. J'insiste une deuxième fois. À un moment, je m'irrite. Je dis, madame, excusez-moi. Elle dit, vous ne voyez pas que je suis occupé. Elle est occupée à parler avec une copine. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là par choix. Je vais dire ça différemment. Elle n'est pas là parce qu'elle veut y être. Elle est là parce qu'elle a besoin d'un travail. Et elle ne veut pas être sans travail parce que pour elle, le travail va permettre qu'elle mange. Vous me suivez? C'est ce qu'on a quand un policier nous arrête. Il nous arrête, il nous demande nos papiers. On sait très bien qu'il n'en a rien à faire avec nos papiers. Parce qu'il s'énerve quand tu as tous les papiers. Ah, je sais que vous n'avez jamais vécu ça, donc c'est pas grave. Okay. La carte de l'extincteur est où? C'est-à-dire, après avoir tout demandé, le joker, extincteur, c'est là. La carte de l'extincteur, tu dis, c'est là. Partez. C'est-à-dire, tu vois même que tu viens de lui couper l'herbe sous les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là par appel, par vocation. Ils sont là pour le ventre. Je prie Dieu que là où Dieu te place, tu n'y sois pas pour le ventre. C'est ton amen qui est très faible et c'est pas grave. Je dis que tu ne sois pas quelqu'un qui crée des problèmes dans son environnement de travail parce que tu penses à ton ventre, tu penses à manger, tu penses à voler, tu penses à dérober parce que tu te dis si je ne dérobe pas. Un policier m'a arrêté une fois et il a arrêté une de mes sœurs une fois. Et lorsque j'arrive, j'explique qu'elle vit à l'étranger, elle a le droit de conduire pendant une période donnée avec son passeport étranger. Et donc le policier essaie de me fatiguer, à un moment je m'irrite, je dis allons au poste parce que tu me donnais un PV, allons au poste, je suis d'accord. Il me dit, grand, calme-toi. C'est ton petit. Il m'explique maintenant qu'en réalité, non. Il dit ce que je veux. Là, grand, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour le petit? Je dis, si au moins tu avais eu l'honnêteté de demander dès le départ et de ne pas essayer de me mettre dans une position comme quoi je suis en faute vis-à-vis de la loi. Et donc je lui dis non. Et il me dit, grand, le mouton broute là où il est attaché. Et donc, je le regarde et je viens de voir un homme qui vient de s'identifier à un mouton à cause du ventre. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que le besoin ne change pas ta nature. Oh, je suis en train de prêcher mieux que tu ne parles à quelqu'un ce matin. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que le besoin ne change pas qui tu es. Ne change pas qui tu es parce que tu dois manger. Ne baisse pas tes standards. Ne change pas tes valeurs. Ne change pas qui tu es. Tu n'es pas un animal. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince. La batterie est coupée. Pourquoi la batterie est coupée? Balagadi, ce que Balagadi yala. Bouscule deux, trois personnes à côté de toi. Dis-lui, tu ne ressembles pas à un chien. J'aime pas comment ce voisin te parle, mais parle-lui. Dis-lui, tu ne ressembles pas à un chien. Cherche un voisin, dis-lui, tu ne ressembles pas à un animal. Tu es un être humain. Fait à l'image de Dieu. Menace-la. Dis-lui, tu es un être humain. Fait à l'image de Dieu. Dis-lui, respecte-toi et respecte ton Père qui est dans les cieux. Respecte-toi et respecte Dieu dans ta vie. Mon Dieu, j'aimerais que les êtres humains faits à l'image de Dieu poussent un cri de révolte dans cette maison.
C'est un cri qui dit, je n'accepterai pas de ramasser les clés. Je n'accepterai pas une promotion canapé. Je n'accepterai pas, je n'accepterai pas, je n'accepterai pas qu'on fasse de moi ce que je ne suis pas. Pousse un cri de révolte dans cette maison. Pas pour un marché, pas pour un contrat, pas pour un poste. Tu ne feras pas de moi un animal. Oh mon Dieu, mon roi, je suis une femme faite à l'image de Dieu. Je ne suis pas une chose, je ne suis pas un objet sexuel. Je suis un homme fait à l'image de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, ce dimanche, Dieu m'envoie te dire, tu appartiens au royaume. Ne vis pas comme un esclave. Tu es un prince, tu es une princesse, tu es un roi, tu es une reine. Rapidement, si la foi est le bras invisible par lequel on prend ce que Dieu donne, si la foi est ce qui permet de décoder l'ADN spirituel qui est le tien, qu'est-ce que la foi ? Hébreux 11, 1, la Bible dit la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Le mot grec c'est hupostasis, H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Littéralement, c'est ce qui se tient en dessous. C'est le fondement, c'est la substance, c'est la réalité objective. La foi n'est pas un rêve, la foi est une substance. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait, la foi est quelque chose de réel. C'est une réalité spirituelle aussi réelle que la chaise sur laquelle tu es assis. Il faut que vous sachiez faire la différence entre quelqu'un de charnel, non, quelqu'un d'animal, quelqu'un de charnel et quelqu'un de spirituel. Quelqu'un d'animal, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'a pas la vie Zoé, qui n'a pas la vie de Christ. C'est celui qui est né de la chair et du sang seulement. Maintenant, un enfant de Dieu peut être charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien bébé. C'est quelqu'un qui en est encore au lait. Quelqu'un de charnel, chrétien, c'est quelqu'un qui accorde plus d'importance à ce qu'il touche qu'aux choses invisibles. Un exemple biblique, Ésaü. Ésaü considère que le droit d'aînesse est moins important que le plat de lentilles, parce qu'il ne peut pas voir le droit d'aînesse. Quand tu considères davantage les choses visibles, physiques, que les choses spirituelles, tu es charnel. Je te donne la permission de mal parler à ton voisin. De ma part, dis-lui, tu es charnel. Dis-lui, l'évêque te connaît. Voilà, dis-lui, l'évêque te connaît. Tu es charnel. Non, tu es charnel. Tu es mal charnel. Maintenant, regarde ton voisin boude. Il dit non. Regarde, ton voisin fait ça là. Maintenant, écoutez-moi, suivez-moi. Demande-lui, quand tu te mets en colère là, c'est quoi ? Quand tu casses tout là, c'est quoi ? Quand tu jettes le téléphone et qu'après tu pleures, c'est quoi ? Quand tu démissionnes et après tu viens demander la prière pour que tu trouves le travail, c'est quoi ? C'est le gros morceau de viande qu'on appelle la chair. On a beaucoup de gens dans l'église qui sont des morceaux de viande ambulants. Avec l'onction, la viande est huilée, la viande à l'huile. Mais c'est quand même une viande, c'est quand même une viande. Suivez-moi. Quand tu as la foi pour ta guérison, ce n'est pas j'espère que peut-être un jour, non, c'est une substance spirituelle déjà présente. Tu ne la vois pas encore avec tes yeux naturels, mais elle est déjà là. La foi, c'est comme les ondes Wi-Fi dans cette pièce. Tu ne les vois pas, mais elles sont réelles. Ton téléphone se connecte à quelque chose d'invisible, mais de réel. La foi. Les ondes sont là. Tu peux te connecter, mais si tu n'as pas le code. Allez, on te demande le code. Quand le réseau est bloqué, on te demande le code. Normalement, tu introduis le code. C'est la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère,
La direction temporelle, la foi regarde vers l'avenir. Elle concerne des choses qui ne sont pas encore manifestées physiquement, mais qui existent déjà spirituellement. Les chrétiens pensent, beaucoup de chrétiens pensent, que la foi concerne les choses qui n'existent pas du tout. C'est là où certains se perdent, parce que la foi, c'est croire que ce n'est pas encore là, mais c'est déjà là. Oh, que Dieu m'aide. Dieu ne va pas créer ta guérison. Les textes disent, tu as déjà été guéri. Je prends un exemple pour le mariage. Je prends un exemple pour le mariage. C'est l'un des sujets dont on parle beaucoup dans les églises pentecôtistes et charismatiques, parce que malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se marier. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'au-delà du problème du choix, il y a de vraies réalités familiales. Le sang. Bref. Aujourd'hui, tu es célibataire, homme ou femme. Laisse-moi te choquer. Si tu dois te marier, ton mari existe déjà. Il est déjà né, ta femme aussi. Dieu ne va pas créer quelqu'un là. Pour toi aujourd'hui, il l'a déjà créé. Il est déjà né. Parce que toi, tu ne les prends pas au berceau. Déjà fait, déjà fait. Est-ce que vous voyez? Sauf que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore rencontré qu'il n'existe pas. Toi, tu ne crois qu'en ce que tu rencontres. C'est pour ça que tu pries comme tu pries. Moi, je sais que je peux ne pas encore l'avoir rencontré, mais j'ai déjà prié, c'est déjà là. L'argent est déjà là. La promotion est déjà là. L'intimité avec Dieu est déjà là. La gloire est déjà là. Mais Éphésiens 1:3. Oh Dieu, je dois courir. Je ne dois pas laisser la partie que je dois vous donner. Éphésiens 1:3. Lisons s'il vous plaît 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Quel est le temps du verbe ici? Tu vois, quand tu as séché l'école, c'est ça là. Tu vois, c'est passé, quel passé? Merci, passé composé. Tu avais oublié, tu avais oublié. Okay. Qui nous a bénis, pas qui nous bénira. Donc, c'est même une erreur de langage de dire Seigneur, bénis-moi. Il t'a béni. Pas demain, Dieu va me bénir. Il t'a béni de... Il t'a béni de quoi? De toutes sortes de quoi? Ok, bon, maintenant, toutes sortes, il y a quoi dans toutes sortes? Demande à ton voisin, il y a quoi dans toutes sortes? Dans toutes sortes, est-ce qu'il n'y a pas tout? Mais pourquoi toi, pourquoi tu vis comme un maudit? Pourquoi tu vis comme un maudit? Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, le problème, c'est tu as été béni où? Pas à Libreville. Tu as été béni dans les lieux. Voilà. Ton problème, c'est que tu vis sur la terre et tes bénédictions vivent au ciel. Ça, ton problème. Maintenant, c'est comment tu prends les bénédictions dans les lieux célestes pour les emmener sur la terre. C'est la foi. Nous a bénis. C'est déjà fait. C'est déjà disponible. La foi, c'est le code qui te donne accès à ce qui est déjà disponible spirituellement. Hébreux 11, toujours 1, dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans preuve. Ça doit se démontrer. Ce qui ne se voit pas doit se voir. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot pour démonstration, c'est E-L-G-C-H-O-S en grec. La preuve, l'évidence, la conviction. C'est écrit dans mes notes, la foi n'est pas aveugle. La foi a des preuves. Pas d'abord des preuves physiques. La foi a des preuves spirituelles. Mais Hébreux 11, 27, s'il te plaît. On parle de Moïse. My God. Lisons 1, 2, 3. Moïse, sans être effrayé, car comme ce qui a permis à Moïse de se tenir ferme, c'est parce qu'il a vu celui qui est invisible. Écoutez-moi bien, au-delà de tout ce que je suis en train de vous dire et dont on va parler tout à l'heure en quelques minutes, la foi dépend de qui tu vois. Au-delà d'être une substance ou d'être une croyance ou simplement une connaissance, Hébreux 12, verset 2. Kadadada. Bradis kete marai. Inte palagada. Brade adoloba. Hébreux 12, 2. Lisons 1, 2, 3. Ayant les regards. Stop. Si tu me demandes une définition simple de la foi, c'est avoir les regards sur Jésus. Parce que c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Là on dit l'auteur et le chef. Donc c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Josué, viens, s'il te plaît. Viens. Josué est dans la barque. La barque de Porte des Cieux. Jésus arrive marchant sur l'eau. Tout le monde dans la barque voit la même chose. Tout le monde dit, c'est un fantôme. Vous êtes là? Il crie, oh, le fantôme. Jésus se rapproche, mais écoutez, il n'y a pas de lumière. Je crois qu'il y avait la SEG là-bas. Bref, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est une nuit sombre. Le vent souffle sur les mers, sur la mer, sur les vagues. Donc ça produit des vagues. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Tous ici savent que l'homme ne marche pas sur l'eau. Ils sont pêcheurs de formation, certains. Ils savent qu'un homme ne marche pas sur l'eau. Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Tout le monde entend la phrase. Pierre, Josué, est le seul parmi tous les disciples qui ont déjà vu Jésus changer l'eau en vin, qui ont déjà vu Jésus guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Pierre dit, si c'est toi, le monsieur vient de dire c'est moi, mais il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Écoutez-moi, la simplicité de ma lecture de texte, c'est si c'est toi, si c'est vraiment toi que je vois, que je fasse ce que tu fais. Ça veut dire, si la vision là vient de toi, que je l'accomplisse, que je fasse ce que tu fais. Je t'ai vu par quelqu'un faire pousser un pied. Si c'est toi, que je fasse pousser. C'est-à-dire que la foi ne reste pas spectatrice de ce que Dieu fait avec autrui. La foi t'emmène à vouloir expérimenter dans ta vie ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Ah, vous m'énervez. C'est pour ça qu'en réalité, qui tu fréquentes, qui tu regardes, c'est important pour ta foi. Jésus lui dit, un seul mot, viens. Josué commence à marcher sur l'eau. Ça dit Josué. Josué que l'on connaît. Josué commence à marcher sur l'eau. Ça veut dire quoi? Josué commence à faire l'impossible. Mon Dieu, je t'ai entendu. Pourquoi? Parce que Josué a vu l'impossible. Voir l'impossible, oh, te positionne à faire l'impossible. Pendant que Josué marche sur l'eau, Josué vit sa vision. Les gens ici, aucun d'eux, aucun ne dit, eh, moi aussi. C'est-à-dire, il reste dans la barque qui n'est plus confortable parce que l'eau rentre, parce que la barque est bougée. Mais il préfère la certitude de la barque que le risque de marcher sur l'eau. Beaucoup d'entre vous, c'est ça votre problème. Vous préférez la certitude du salaire que le risque de devenir entrepreneur. Tu préfères que l'argent vienne tous les mois à la même date plutôt que sortir du confort pour dire, je ne sais pas si ça va venir, mais je sors. Pendant que Josué marche sur l'eau, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'à un moment, Josué va regarder, laisse-les tranquilles. Pendant que Josué est en train de marcher sur l'eau, il regarde à l'eau, suivez-moi, il regarde à l'eau et au vent. Et vos Bibles disent que dès que Josué regarde, Josué coule. Regardez, regardez. Pendant qu'il coule, Jésus arrive, le prend par la main et repart avec lui dans la barque.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.